Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la justice réparatrice, de la guérison des mémoires, des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ont vraiment besoin de soutien, de réparer des choses qui ont été brisées. Nous avons avec nous, et c'est vraiment un plaisir qu'elle soit avec nous, et c'est vraiment une grande joie de vous recevoir, Estelle Drouvin. Vous êtes directrice du Centre de services de justice réparatrice.
Bonjour Renaud, et merci. Bonjour à tout le monde.
Oui, vous êtes très, très généreuse d'être avec nous, parce que on entend parler de ça, mais c'est pas toujours clair. Puis on se demande, ben c'est peut-être pour les autres, on pense jamais que ça peut être pour soi. Alors d'abord, Estelle Drouvin, parlez-nous d'abord de votre rôle, de ce qui vous a amené au Centre de services de justice réparatrice et de vos motivations pour qu'on vous connaisse un peu plus.
Avec plaisir. Alors, moi, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis au CSJR, un peu à la coordination. On est une équipe de 5 personnes et une belle gang de bénévoles. Donc, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et j'ai à la fois un pied dans la gestion, dans la coordination de tout ce qu'on peut offrir comme service, mais aussi un pied sur le terrain, parce que depuis 2016, je suis animatrice des ateliers guérison des mémoires, aussi avec d'autres, une belle équipe aussi à ce niveau-là. On pourra en parler un petit peu plus tard, mais donc j'ai ce côté terrain aussi. Et pour moi, c'est important de rester en contact avec les personnes qui viennent nous voir, en fait, au service. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir la justice réparatrice? En fait, je suis arrivée de France il y a 20 ans, en 2005, et il se trouve que dans les personnes que je connaissais en France et qui vivaient au Canada, il y avait des personnes de mon ancien réseau professionnel. Je travaillais à la FIACAT, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et dans ce cadre-là, j'avais eu la chance de rencontrer Thérèse de Villette, qui se trouve être la fondatrice du Centre de services de justice réparatrice. Donc, quand je suis arrivée ici, elle était encore à Montréal, j'ai eu la chance de la revoir. Et elle et aussi Raoul Lincourt, qui était le président fondateur du CSJR, m'ont assez vite invitée à découvrir le CSJR, sachant que j'avais des études de droit, que la justice m'intéressait beaucoup, et aussi des valeurs chrétiennes qui pouvaient être rejointes par cette mission-là. Alors, je suis allée à une de leurs soirées, et je me souviendrai, je pense toujours, de cette première soirée. Il venait de sortir un film qui s'appelait « Un pas vers la libération », où il y avait beaucoup de témoignages d'anciens participants de ces rencontres de justice réparatrice. Ça pouvait être des personnes ayant été victimes d'actes criminels comme des personnes incarcérées. Et ça m'a énormément touchée parce que j'entendais des démarches vraiment inspirantes de personnes qui avaient osé la rencontre après le drame, après le tragique. Et j'entendais leurs témoignages de transformation profonde intérieure. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment un avant, un après, le nommer comme tel. Et une autre chose qu'il nommait, qui m'avait beaucoup touchée, c'est que c'était du gagnant-gagnant. Tout le monde avait gagné dans cette histoire-là. Et ça me touchait parce que je me disais, si c'est gagnant-gagnant, ça va être pérenne comme transformation. Et c'est vraiment une vision de société à laquelle je crois et qui m'anime. Alors, j'ai été bénévole au début, puis petit à petit, finalement, le poste s'est libéré en 2010 de coordination et j'ai décidé de poursuivre professionnellement au CSJR.
Estelle Drouvin, quelle est l'origine de la justice réparatrice? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par justice réparatrice? C'est pas toujours très, très clair.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions hein, au niveau de la justice réparatrice. Je dirais que c'est une approche humaniste qui s'intéresse aux conséquences de la violence dans la vie des personnes et de la communauté et qui est vraiment axée sur la réparation hein, de ce qui a été brisé. Alors la réparation, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi, et c'est le cas au CSJR, plus, j'allais dire, humain et spirituel, dans le sens où on essaie de réparer la confiance. Hein, parce que quand il y a de la violence qui a été commise, subie, souvent, ben, il y a des liens de confiance, ou en tout cas de la confiance en soi qui peut aussi, ou de la confiance dans les autres qui est brisée, hein. Et aussi, ben, plein de choses, la culpabilité, il y a beaucoup de conséquences à la violence. Donc, de trouver des espaces de rencontre pour pouvoir déposer tout ça. Alors, la justice réparatrice, en tout cas au CSJR, parce qu'il y a plein de formes de justice réparatrice, hein, mais nous, c'est vraiment axé sur la rencontre entre des personnes qui ont subi de la violence et d'autres qui en ont commis. Mais chez nous, ce ne sont pas des personnes qui se connaissent. C'est pas l'agresseur direct, par exemple. Ça peut être le cas dans d'autres réseaux, comme au Service correctionnel du Canada, le réseau Equijustice, le réseau Assojac. Là, on peut rencontrer directement la personne qui nous a blessés ou qu'on a blessés. Mais au CSJR, on travaille avec des, enfin, on propose à des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont subi la même chose ou commis la même chose, par exemple de l'inceste, mais c'est pas des gens de la même famille. De se retrouver ensemble pour pouvoir parler de ces conséquences-là et de comment se réparer ensemble, en fait. Et dans nos rencontres, et ça, c'est vraiment une des spécificités du CSJR, c'est d'intégrer des membres, ce qu'on appelle des membres de la communauté. Des membres de la communauté, c'est des citoyens, des citoyennes qui sont là pour rappeler que le crime n'est à une dimension sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le fondateur et visionnaire David Chance, qui était l'aumônier ménonite carcéral, qui a pensé ces rencontres-là dès les années 90, a eu comme intuition, c'est de se dire non, ça concerne pas juste deux personnes quand un crime est commis, quand de la violence est commise, ça a des impacts sur tout l'entourage, ça a des impacts sur la communauté au sens large. Donc, c'est important qu'il y ait aussi des citoyens qui puissent entendre ce qui s'est passé et puis qui puissent aussi être responsabilisés, parce que nous, comme citoyens, par notre action, notre inaction, souvent, on va permettre que cette violence se perdure. Ou, en tout cas, on n'agit pas toujours, en fait, quand on est témoin ou on veut pas voir. Donc, il y a des choses aussi qui viennent nous sensibiliser sur l'importance de chaque personne pour prévenir et faire que la violence s'arrête, en fait.
Et Cédric Rouvray, vous avez dit plusieurs choses très intéressantes. Donc, je vais repartir, si vous permettez. Vous avez nommé, bien sûr, les victimes de différentes formes de violence, les personnes qui posent des gestes, qui font des victimes, des agresseurs, mais vous avez aussi parlé de la communauté. Et donc, si je comprends bien, la justice réparatrice, c'est pour permettre à des victimes qui seraient prêtes à le faire, bien sûr, je pense que personne n'est forcé, si je comprends bien, de rencontrer des agresseurs qui auraient fait à peu près comme le même type de crime dont était victime la victime. Mais il y a une communauté qui est autour, parce que vous dites que la communauté, ça peut être la famille, ça peut être la famille élargie, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, est aussi touchée par ce qui a été brisé profondément. Alors, comment vous réussissez à faire en sorte que ces rencontres, et je comprends bien que ce sont des rencontres qui sont pas improvisées, hein, c'est bien préparé, comment vous préparez donc ces rencontres-là pour que ça donne ses fruits? Puis, ce que je comprends aussi dans ce que vous avez dit, vous me direz si j'ai tort, c'est que même l'agresseur doit lui aussi guérir, si je comprends.
Oui, alors il y a beaucoup de choses aussi dans la question. Merci Renaud. C'est un élément important. La démarche est volontaire. Ça, c'est vrai que c'est un point essentiel, y compris pour les personnes incarcérées. C'est pas à cause de cette démarche qu'ils vont pouvoir sortir plus vite ou pas, en fait, hein. Ou en tout cas, et du côté des personnes ayant été victimes, c'est pas forcément des gens qui sont passés par le système judiciaire. C'est pas forcément des personnes qui ont porté plainte. On est vraiment côté personne ayant été victime, indépendant de tout le système judiciaire. Donc, je dirais que la grande majorité des personnes qui viennent nous voir ne sont pas passées par le système judiciaire, soit qu'elles ne le voulaient pas, soit qu'elles ne Finalement, elles ont essayé, mais elles n'avaient pas assez de preuves où la personne était décédée, ou la personne était dans un autre pays, ou la personne avait un problème de santé mentale. Ou, bon, il y avait plein de raisons qui font que elle n'a pas pu avoir gain de cause. Donc, c'est vraiment très ouvert à ce niveau-là. Et côté personne incarcérée, ça peut être des personnes actuellement incarcérées ou l'ayant été. Mais c'est là où on est complémentaire plus du système pénal, c'est que souvent, nous, on travaille avec des personnes qui ont déjà été reconnues coupables, qui ont pu bénéficier de services à l'intérieur des murs pour se responsabiliser. Ça, c'est un maître mot de la justice réparatrice également, la responsabilisation, dans le sens où c'est se remettre debout face à l'autre, dans notre vulnérabilité, hein, de se reconnaître responsable, c'est quelque chose. Mais pour la personne qui a été victime, c'est aussi faire face à l'autre et se remettre debout aussi, sortir d'une emprise, retrouver sa dignité, sa capacité de parler à l'autre, de dire ce qu'elle a vécu. Donc, c'est de cet ordre-là, quelque part, la guérison, la libération, hein, au niveau de la transformation. Et par rapport à la préparation, c'est un élément central pour les trois types de participants. C'est vrai que nous, on arrive dans un continuum de services avec, il y a d'autres organismes ou services qui ont été proposés souvent aux personnes avant pour se remettre en marche, hein. C'est souvent ce qui se passe, c'est quand il y a de la violence, mais ça nous coupe, ça nous bloque, ça nous fige. Le trauma, c'est ça que ça fait, hein, au niveau de la mémoire traumatique aussi. Donc là, l'idée, c'est de se remettre en marche, hein. Comme on répare une voiture, hein. C'est vrai que ça peut faire très mécanique, mais c'est refonctionner, se remettre en marche, repartir, et accepter de retourner vers l'autre, vers les autres. Et donc, en fait, on va les accompagner. On a des entrevues préparatoires de part et d'autre qui sont individuelles. Quand on a des groupes, parce qu'on a deux méthodes en face à face ou en groupe, mais quand c'est des groupes, on a aussi des sous-groupes pour les préparer, les personnes ayant été victimes d'un côté, les personnes incarcérées de l'autre. Pour les membres de la communauté, on a une journée de formation qui est proposée également pour vraiment travailler aussi nos biais cognitifs. Hein, pour travailler, regarder, ben est-ce que je peux avoir des préjugés. On vient avec qui on est, hein, dans ces rencontres, mais de pouvoir surtout être à l'écoute de l'autre, hein, de pouvoir entendre l'histoire de l'autre et pouvoir aussi voir la force qui est en l'autre, hein, et pouvoir dire qu'est-ce que ça me fait, la résonance du récit de l'autre pour moi. Qu'est-ce que ça vient résonner chez moi? Donc, de pouvoir se relier au niveau du cœur. Hein? Donc, ça, c'est une dimension importante chez nous.
Alors, ça veut dire que c'est pas une question de règlement de compte, de vengeance. C'est vraiment une question que les personnes qui participent à ces rencontres ont vraiment le désir de réparer et de se réparer et d'aider l'autre aussi à trouver les moyens de réparer. Est-ce que je comprends bien le sens des rencontres de la justice réparatrice?
Oui, tout à fait. Il faut vraiment que ce soit dans une dynamique réparatrice. Donc, c'est sûr que les valeurs chez nous, c'est la dimension de l'écoute, du respect, de l'inclusion. Hein, on est là, en fait, il y a vraiment une dynamique de se dire on est blessé et comment on peut guérir ensemble. Le mot « ensemble » est central chez nous, hein, de pouvoir se dire ok, je vais... Parce qu'il y a une partie que l'autre sait. Souvent, les personnes ayant été victimes qui viennent nous voir nous disent « J'en ai parlé longtemps à mon thérapeute, vraiment, puis j'ai libéré des choses. Mais il y a des choses que je lui ai pas dit. Ma colère, j'arrive pas à lui exprimer parce que c'est pas elle vraiment qui est concernée. Puis il y a des choses que j'ai l'impression elle peut comprendre, mais pas tellement en profondeur. » Tandis que si j'en parle à quelqu'un qui a commis la même chose, lui, il sait très bien ce que je veux dire. Et donc, il y a une résonance dans les histoires qui parfois nous surprend même au niveau des animateurs. Ils n'en reviennent pas. Des personnes qui sont mises ensemble, comment c'est juste souvent dans les histoires, comment il y a des liens qui se font, des résonances qui se font et finalement, comment ils grandissent ensemble à travers ça. Mais ça suppose c'est très courageux comme démarche, hein, de part et d'autre, hein. Imaginez les peurs qu'il y a au départ et c'est normal qu'il y ait de la peur parce qu'on veut pas ressouffrir, on veut pas se remettre dans une situation traumatique. Donc, on dit souvent, on repart ensemble sur le lieu du crime. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le goût d'y retourner sur le lieu du crime. Mais là, on est accompagné. Les animateurs sont vraiment formés, expérimentés, puis ils sont là pour créer cet espace de confiance où chacun va oser s'ouvrir dans sa vulnérabilité, dans ce qu'il vit de plus honteux. Parfois, les gens nous disent « Oh, c'est la première fois que je dis ça à quelqu'un, tellement j'avais honte, j'osais pas en parler », puis là, ça sort. Mais le fait que ce soit mis là, au milieu du cercle, et que ce soit mis en lumière et que ce soit accueilli avec respect. Parfois, c'est de la colère qui peut être exprimée et on va prendre un temps de silence pour accueillir cette colère comme quelque chose finalement de bénéfique parce que c'est quelque chose qui va libérer la personne dont elle se décharge. Donc, c'est vraiment ce sentiment de libération que beaucoup de personnes nous disent à la fin. Ils nous disent « j'ai un sentiment de plus grande légèreté ». D'une paix retrouvée, de moins de lourdeur sur mes épaules. Et on le voit physiquement, il y a beaucoup plus de lumière, souvent. À chaque fois, on se dit, on devrait faire comme pour les régimes, là, les photos avant et après, là, parce que vraiment, il y a des différences avant et après. On le fait pas, parce que c'est des démarches très confidentielles. Mais nous, on le voit et on en est témoin, et c'est ça qui est beau.
Vous parlez de la paix que peuvent ressentir des personnes qui participent donc à ces rencontres de justice réparatrice. On imagine un peu du côté de la victime. Est-ce que cette paix-là, elle est aussi vécue par des agresseurs, des gens qui ont été ou qui sont incarcérés, qui font cette démarche? Est-ce que cette paix-là peut être ressentie aussi par eux? Est-ce que ça peut apaiser en eux des choses blessées?
Ça peut le faire. On a ce genre de témoignage. Il y a plusieurs. Chaque situation est unique, c'est sûr. Ça dépend de la personne. Chaque personne arrive avec son bagage, avec le type de crime, avec ce qu'elle a déjà fait comme cheminement. Alors, parfois, il peut y avoir, après les rencontres ou au moment des rencontres, quelque chose qui est plus lourd à porter. Dans le sens où, tout d'un coup, pour des personnes qui ont agressé, elles vont prendre conscience de l'impact encore plus fort. Donc, c'est sûr que nous, on demande des gens qui se responsabilisent, qui reconnaissent ce qu'elles ont fait, tout ça. Mais parfois, la responsabilisation, elle va encore plus loin. Je me souviens d'un père qui avait fait, moi j'étais membre de la communauté, puis il avait fait la démarche, lui c'était pour inceste. Et quand il a vu des femmes arriver de 70 ans, dans le cercle, ou de 65 ans, alors que c'était arrivé quand elles avaient entre 8 et 10 ans. Ça lui a fait, mais c'est venu le chercher profondément et d'entendre leur histoire, de réaliser que pour sa fille qui avait 10 ans, lui, il pensait que ça y est, c'était arrêté, qu'elle allait là, maintenant, suivre une thérapie, que ça allait mieux. Mais là, il se rendait compte que, oh mon Dieu, ça risque d'être sur sa vie entière qu'il va y avoir des conséquences. Et ça avait été profondément douloureux pour lui de réaliser ça. Donc, c'est vrai que parfois, il y a un passage comme ça plus difficile. Mais là, justement, les gens vont rechercher de l'aide aussi derrière. Donc, ça permet justement d'aller enlever une nouvelle couche d'oignon là pour se libérer. Mais la plupart vont dire, ah, ça m'a fait tellement bien de vivre cette démarche parce que maintenant, je peux me regarder un peu plus dans le miroir. Il y a comme une sorte de fierté. Retrouver.
À question d'aujourd'hui, nous sommes avec Estelle Drouvin, directrice du Centre de services de justice réparatrice. Estelle, si vous permettez, j'aimerais que vous nous parliez d'un autre service. On vient de parler de justice réparatrice, c'était très, très intéressant, très éclairant. Mais vous avez aussi un service qui s'appelle Guérison des mémoires. Alors, est-ce que ça concerne des gens qui n'auraient pas nécessairement été victimes d'un acte criminel, mais qui auraient besoin peut-être de guérir des choses de l'enfance, de la petite enfance, ou plus tard dans leur vie? Est-ce que ça concerne qui et qu'est-ce que c'est que cette guérison des mémoires?
Oui, c'est un atelier en fait qu'on a depuis 2016 au Québec. En fait, on en est au 14e atelier. C'est des ateliers d'une fin de semaine complète pour des groupes de 25 personnes. On en donne deux par an à peu près. Et en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça,
Tout le
c'est la
monde.
bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut venir participer à cet atelier. Vraiment. C'est des groupes très variés. Ça peut être des personnes qui sont autochtones, des personnes qui sont québécoises de souche, des immigrants qui sont arrivés ici au Québec. Donc c'est vraiment pour monsieur, des hommes, des femmes, tous les âges, bon, des adultes, c'est sûr que c'est plus des personnes adultes, mais vraiment tous les âges, toutes les histoires. Et en fait, l'idée de ces ateliers-là, je vais peut-être vous dire d'où ça vient, peut-être pour mieux comprendre la philosophie derrière. C'est des ateliers qui viennent d'Afrique du Sud. En fait, ils ont été créés après l'apartheid en Afrique du Sud par un prêtre anglican qui s'appelle Michael Lapsley, qui est encore vivant et qui est venu en 2016 au Québec. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée de lancer ces ateliers ici est venu, puis il nous a formés, il venait chaque année jusqu'en 2024, la dernière fois, et il nous a formés. Maintenant, on a une petite équipe d'animateurs certifiés au Québec. Et en fait, ces ateliers ont été créés parce que lui, pendant l'apartheid, donc c'est pendant 40 ans d'apartheid en Afrique du Sud, hein, cette division entre la communauté blanche et puis la communauté noire et comment la communauté noire a été vraiment, oui, colonisée en fait et ostracisée, c'est toute la ségrégation. Et il y a eu la commission Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud, pour essayer de réparer, entre guillemets, les commissions vérité-réconciliation sont vraiment des espaces qui sont dans l'esprit de la justice réparatrice. C'est de regarder l'histoire qui a été vécue au niveau collectif, puis de créer un espace de dialogue où on peut entendre l'histoire de ceux qui ont été persécutés et où ceux qui ont persécuté se responsabilisent et reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et on regarde ensemble des chemins d'avenir, en fait. Au Canada, on a eu aussi la commission Vérité-Réconciliation. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens nous disaient, mais ce serait important qu'on ait aussi ce genre d'atelier au Québec ou au Canada. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que c'était pas juste une question liée à la colonisation, ces ateliers-là. C'est vraiment des ateliers qui se sont maintenant élargis pour tout le monde et qui sont dans une philosophie que là-bas ils appellent la philosophie Ubuntu, qui montre comment on est tous reliés les uns aux autres dans une communauté et on est reliés, c'est-à-dire ce que je fais a un impact sur la communauté ou la collectivité dans son ensemble et la collectivité a un impact sur moi. Donc en fait, ces ateliers, c'est une occasion, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se donner de relecture de vie. On va relire toute notre vie avec ce qui a été fort, mais ce qui a été plus blessant. Et puis, on a tous des histoires où il y a eu des petites blessures ou des grosses blessures. Et puis, chaque souffrance, il n'y a pas une échelle des souffrances. Toute souffrance est importante, hein. Donc, on part de nos histoires et on regarde aussi l'impact de notre famille, de notre nation, de notre genre, de notre religion. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie aussi? C'est rare de prendre ce temps-là, de regarder aussi le lien que j'ai avec la communauté, puis comment elle a un impact sur moi. Et Michael Lapsey disait toujours, chacun a une histoire digne d'être écoutée. Et donc, c'est vraiment à partir de là que les ateliers se sont bâtis. On travaille avec de la créativité, avec des rituels, avec le récit de vie, l'écoute et le partage de récits. On regarde ce qu'on a fait dans nos vies, ce qu'on nous a fait, mais ce qu'on a omis de faire. Donc, on regarde ces trois dimensions-là aussi.
Est-ce qu'on regarde aussi ce que notre mémoire a emmagasiné en disant, bon, ça, je veux pas toucher à ça, je veux oublier ça. Est-ce que ça va chercher ça aussi, Estelle Drouvin?
Tout à fait, tout à fait. Les mémoires et surtout les émotions qui peuvent être enfouies derrière ces mémoires-là, derrière ces souvenirs-là. Parce que parfois, en effet, on les tasse, mais il y a une émotion enfouie qui fait que finalement, elle nous empêche d'être libre, d'être léger, d'être plus connectés parce que on n'est pas unifiés finalement. Donc ces ateliers-là, c'est d'avoir un espace de dialogue dans un climat vraiment de bienfaisance, de bienveillance, pardon, et de résonance avec d'autres histoires et de regarder qu'est-ce que ça me fait aussi au niveau émotionnel et de pouvoir libérer ça en confiance.
Alors, vous avez dit, c'est deux fins de semaine par année que vous offrez, donc, la guérison des mémoires, et ça s'adresse à tout le monde. Alors, je comprends bien que nous avons tous besoin de guérison. Et peut-être que des moments charnières dans la vie où c'est peut-être nécessaire d'aller voir des choses et de prendre un chemin, si je comprends bien, Estelle Drouvin, prendre un chemin de guérison que vous offrez. Il nous reste quelques instants. J'aimerais, Estelle Drouvin, que vous nous parliez du 25e anniversaire cette année du Centre de services de justice réparatrice. 25 ans déjà.
Eh oui, 25 ans, c'est quand même tout un âge. Là, on est sorti de l'adolescence, on commence à prendre un peu d'âge mûr. Oui, on a été, en fait, le CSJR, figurez-vous, a reçu ses lettres patentes le 11 septembre 2001.
Alors, d'accord, c'est donc on se souvient que nous avions les yeux sur ce qui se passait aux États-Unis. Vous avez eu donc vraiment vos lettres patentes cette journée-là.
Voilà, on aurait voulu l'inventer, on n'aurait pas pu. Hein, donc,
exactement.
La vie nous a amené ce beau clin d'œil, hein, un appel à la paix, à la réconciliation intérieure.
À la vérité, si je comprends bien aussi.
À la vérité aussi, tout à fait, à la justice réparatrice. Et donc, en fait, le 11 septembre prochain, on fêtera notre 25e, c'est vrai. On va en profiter, on est un peu dans une phase de relooking. Donc, on va avoir un nouveau nom, un nouveau logo, un nouveau site web. Ça va être l'occasion de pouvoir présenter ça lors d'un apéro dînatoire le 11 septembre prochain. Puis tout au long de l'année, on veut célébrer cet anniversaire avec des projets qui sont déjà un petit peu dans nos têtes, mais un peu plus que dans nos têtes aussi. Donc, on invite les personnes qui sont intéressées à venir s'inscrire sur notre site web si ça les intéresse, à csjr.org, pour mieux connaître nos activités puis pouvoir être informés de ces anniversaires à venir pour qu'ils puissent venir célébrer avec nous. Puis voilà, il y aura notre assemblée générale fin mai aussi pour nos membres. Ils vont avoir le droit à des scoops. Mais sinon, le grand public, ce sera pour le 11 septembre 2026.
Il nous reste quelques secondes, Estelle Drouvin. Si quelqu'un dit, peut-être que j'aurais besoin, je veux en savoir un peu plus sur vos services, peut-être que j'en aurais besoin ou je connais quelqu'un qui peut-être pourrait profiter de vos services. Donc, je pense que la meilleure façon de vous contacter, de communiquer avec vous, c'est en allant voir sur votre site web et là, il y a les coordonnées pour communiquer avec vous.
Tout à fait, oui. N'hésitez pas à nous appeler, ne serait-ce que pour poser des questions ou pour nous demander comment en parler à une autre personne. Il y a vraiment... On a des ateliers, juste vous dire, qui s'en viennent aussi sur des ruptures familiales à la suite de violences. On a aussi des rencontres de justice réparatrice sur des mères maltraitantes, en tout cas, tout type de crime, vous voyez. On a beaucoup de demandes par rapport à des personnes assassinées ou autres. Donc, n'hésitez pas, venez nous rencontrer. Pour tout type de souffrance, on est là.
Estelle Drouvin, directrice du Centre de services de justice réparatrice. Un grand merci, ça a beaucoup éclairé de questions que l'on portait à question d'aujourd'hui, justement. Merci beaucoup.
Un grand merci, Renaud, et bienvenue à chacun et chacune.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci pour votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.